France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
L'objectif est simple, nous protéger contre ce virus sans faire arrêter la vie économique et sociale en évitant la perspective d'un reconfinement généralisé. Les mots de Jean Castex hier à Lille, le Premier ministre qui en appelle donc à la responsabilité de chacun en agitant la menace. Reconfinement généralisé, évidemment, ce que tout le monde veut éviter. Mais avant de se faire peur, de penser à ce que pourrait être ce reconfinement, il faut prendre le temps de tirer les enseignements de ce que nous avons déjà vécu, car il y a beaucoup à dire, concernant notamment les personnes âgées, la gestion de la crise dans les EHPAD, mais aussi la situation de celles et ceux qui vivent à domicile, la question du consentement, de l'isolement, des relations entre générations, de la place des plus âgés dans notre société, du regard que l'on porte ou non sur eux. Deux invités avec nous ce matin pour mener cette réflexion. Magali Assor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la démarche de réflexion éthique au sein de l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui a publié début juin un rapport sur les effets du confinement sur nos aînés. Et Serge Guérin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à l'INSEC à Paris, auteur de nombreux livres sur les seniors, le vieillissement, les quinquados, le dernier chez Calman Lévy en 2019. On peut aussi citer La guerre des générations aura-t-elle lieu, coécrit avec Pierre-Henri Tavoyot, publié en 2017 chez Calman Lévy également. Et vous avez créé un collectif avec des médecins et des chercheurs sous le nom d'États généraux de la séniorisation. Nous en parlerons. D'abord, je voudrais commencer par ce qui peut avoir l'apparence d'un paradoxe, Magali Assor. La logique du confinement, c'était tout de même de protéger les plus vulnérables et notamment les personnes âgées. Or, on s'aperçoit, en lisant, en écoutant les uns et les autres, que cette période a été terrible pour elles.
Absolument. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, puisque tout n'a pas commencé en mars 2020, je voudrais parler d'une étude qu'on a faite en 2017 chez les Petits Frères des Pauvres, parce que nous, on a une très longue expérience, c'est notre cœur d'action, en fait, la lutte contre l'isolement. Et nous avons, en 2017, essayé de chiffrer un peu ce qu'est l'isolement et ce qu'est la solitude. Je pense que c'est quand même très important d'avoir ces notions en tête pour bien comprendre ce qu'on a traversé et les observations qu'on a faites de cette crise. La solitude, c'est un ressenti. Donc vous pouvez avoir des contacts, des relations, mais elles ne sont pour vous insatisfaisantes. Et donc vous avez un sentiment fort de solitude. L'isolement, au contraire, ça se mesure. C'est un déficit de contact et donc on peut le chiffrer. Le déficit de contact, ça va être, on a vu qu'il y avait 4 cercles de sociabilité. La famille, le cercle amical, vos voisins et puis les associations. Et on s'est rendu compte que les personnes âgées en France, donc je vous parle d'une période avant la crise, sont profondément isolées. Je vais vous donner 2 chiffres pour vous donner une idée. On a chiffré qu'il y a 900 000 personnes qui souffrent d'isolement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contact avec leur famille et pas de contact avec leur voisin ou leur cercle amical. C'est la ville de Marseille, si on ne se rend pas bien compte des chiffres. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait 300 000 personnes en état de mort sociale. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun contact avec les 4 cercles de sociabilité. Donc ça, ces données-là, elles sont disponibles.
Et on se souvient effectivement de cette étude qui avait frappé les esprits, oui.
Voilà, et donc du coup, quand en début mars, donc avant le confinement général de la population, il a été décidé de fermer les EHPAD, nous avons tout de suite alerté. Le lien social, c'est vital pour tout le monde, s'en est rendu compte, mais pour des personnes âgées, isolées, qui ont un rapport parfois très ténu avec la vie, c'est fondamental, c'est vraiment un besoin nécessaire. C'est pas simplement des visites de compagnie, de convivialité. Donc ça explique. Enfin, nous, on s'en est très vite rendu compte. On a mis en place des appels téléphoniques, on a mis en place un certain nombre d'actions. Il y a eu beaucoup de solidarité pendant cette période-là, mais c'est insuffisant. Et nous avons interpellé les pouvoirs publics pour justement pouvoir reprendre les visites et avoir un contact plus soutenu.
Alors, on va en parler, bien sûr, Serge Guérin, avant d'entrer dans le détail au fur et à mesure, et puis ensuite d'émettre des préconisations après 8 heures. D'abord, vous aussi, sur cette question du paradoxe, considérez-vous que les pouvoirs publics, la société, ont failli dans l'accompagnement des personnes âgées durant cette période de confinement, alors qu'une fois encore, l'idée était de les protéger, de nous protéger tous, mais elles aussi?
Oui, bien sûr. L'idée était de se protéger. D'ailleurs, le « prenez soin de vous pour prendre soin des autres » était une formule assez forte, très claire d'ailleurs, hein, dans cette notion-là. Deuxième élément, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une impréparation de ce moment-là. Hein, le manque de masques, enfin, tous ces éléments-là ont été très très marquants. Il y a eu une sidération. Et puis, il y a eu quelque chose qui était, en effet, on veut vous protéger, mais d'une certaine manière aussi en vous infantilisant, c'est-à-dire qu'en pensant à votre place, en disant voilà ce qu'il faut faire, et on peut le comprendre, hein, je porte absolument pas de jugement, parce que dans une période comme ça, c'est extrêmement difficile. Par exemple, il semble des pattes qui ont fermé, mais qui ont aussi protégé en fermant, mais du coup qui presque enfermer les personnes avec des gens, en effet, comme ça a été dit, qui avaient besoin de liens sociaux, et finalement on a décidé à leur place. On a décidé que pour votre bien, c'était comme ça qu'il fallait faire. Dans une situation de catastrophe et d'impréparation, je vais être la pire à personne, c'était un fait. Mais du coup, on a infantilisé les gens et on a décidé à leur place, y compris des gens qui auraient pu dire « mais moi, je préfère prendre le risque de la maladie plutôt que me retrouver complètement isolé et de voir personne ». Et donc, c'est aussi toute la difficulté de maintenir une citoyenneté, une dignité des personnes, quelle que soit leur situation. Et puis, pour les gens qui étaient à domicile, ça a été aussi pareil. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des gens à domicile qui peuvent se retrouver presque encore plus isolés. Il n'y a personne, il n'y a aucun lien. Et puis, d'un seul coup, par exemple, les services à domicile qui ne pouvaient plus intervenir. Il y a tout ça qui a joué en même temps, mais au nom de la protection, bien bien compréhensible, on est arrivé à une situation de... Encore une fois, où on pense pour les personnes, à la place des personnes, et chacun, avec son âge, ne peut plus se retrouver en termes de citoyenneté et de prendre son risque et de faire ses choix.
Magali Assor, vous approuvez ce que dit Serge Guérin, mais juste une chose. Quand on dit on a décidé pour elles, pour les personnes âgées, en vérité, on a décidé pour tout le monde. Le choix du confinement, les personnes âgées, effectivement, n'ont peut-être pas été associées à ce qui a été fait, mais au final, qui l'a été? Le choix du confinement, il n'a pas été discuté de façon générale pour l'ensemble de la population.
Absolument. Simplement, lorsque vous étiez confiné chez vous, vous aviez la possibilité de sortir une heure par jour, ce qui n'a pas été le cas pour toutes les personnes qui sont en EHPAD. Alors, je ne parle même pas de sortir à l'extérieur de l'EHPAD, je parle de juste sortir de
sa chambre.
De la chambre, puisqu'il y a eu un confinement en chambre qui a été décidé en cours de route. C'est vrai qu'il y a quand même cette tendance à mettre les personnes âgées sous cloche, et il y a aussi cette tendance à les considérer comme un grand tout indifférencié. Alors que ce sont je veux dire, il n'y a pas une personne âgée qui, enfin, être déjà une personne âgée, ça veut rien dire. Votre âge ne définit pas votre identité et ne définit pas vos capacités. On a des personnes âgées de 93 ans qui sont tout à fait alertes et qui d'ailleurs nous ont dit arrêtez de nous prendre pour des personnes vulnérables. Il y a des personnes vulnérables, il y a des personnes qui ont des difficultés de santé, effectivement, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en capacité, et je rejoins Serge Guérin, de décider pour elles-mêmes, c'est-à-dire elles être informées sur les risques à prendre, et de choisir de les prendre ou pas. On a des personnes qui ont choisi d'être confinées. Il y a 2,5 millions de personnes qui sont de plus de 60 ans qui ne sont jamais sorties de chez elles pendant toute la durée du confinement. On a observé pendant notre étude également que les personnes âgées, dans leur grande majorité, se sont montrées extrêmement responsables.
Alors, on va revenir sur cette question du choix, du libre choix un peu après, mais d'abord, voilà, Serge Guérin, la partie la plus visible de l'iceberg, on va dire, ça a été effectivement, pour ce qui est de l'isolement en EHPAD. En même temps, comme sur d'autres questions, en réalité, ce sont des problèmes structurels qui sont ressortis très fortement avec cette crise. Les EHPAD et le manque de moyens en EHPAD, on en parlait déjà bien avant la pandémie. En l'état de ce que sont les EHPAD, y avait-il le choix ? Pouvait-on faire autrement que par rapport à ce qui a été fait ?
Alors, très bonne question, hein. C'est-à-dire que c'est aussi 30 ans, 40 ans, 50 ans de non-choix qui se paye aussi à ce moment-là. Et dans la situation, sans doute que avec aussi le manque de masques, avec le manque de tests, avec tout simplement le manque d'expérience de cette situation, peut-être y avait-il pas tellement d'autres solutions. Avec aussi la trouille, j'utilise bien le terme, de tout ce qui peut être juridique. Attention, qu'est-ce qui va se passer si ? Parce qu'il y a aussi des injonctions contradictoires, des familles qui d'un côté disent protégez-les absolument, voire même surveillez-les, voire même enfermez-les, et en même temps de dire mais on veut les voir. Vous voyez, il y a un petit peu, parce qu'on peut aussi se retrouver dans nos propres contradictions, ainsi avec des gens qui sont gênés de tout ça, quoi. Donc c'est arriver à trouver le bon chemin à travers tout cela, dans un moment de catastrophe non prévue, et dans un moment aussi avec je dirais à la fois un problème économique, de moyens qui ont été mis, je pense en particulier en termes de personnel, et puis aussi une problématique culturelle, ce qu'on avait mis en avant avec les états généraux de la seniorisation, qu'on a fait à la fois avec le docteur de Normandie, la chercheure Véronique Suissa, puis avec plein d'autres gens, c'était que faut quand même rappeler aussi que c'est finalement le poids aussi de ne pas avoir réfléchi, de ne pas vouloir regarder en face une France qui évolue, et une France, par exemple, qui prend de l'âge. Et de pas avoir pris cette réflexion culturelle de se dire, mais les gens âgés sont des citoyens comme les autres, et comment, finalement, on invente une société, de la séniorisation de la société, qui prend en compte l'ensemble des générations, pour surtout pas qu'elles s'opposent, mais comment elles construisent ensemble une sorte d'alliance. Et comme il y a un défaut de réflexion autour de tout cela, bah, au moment où une catastrophe arrive, on réagit dans l'urgence, et peut-être du mieux que l'on peut et que l'on cherche à faire, bien sûr, mais n'empêche que des réactions qui sont pas nécessairement exactement appropriées à ce qui aurait pu être fait. Et encore une fois, en déniant à la personne âgée, d'abord en la regroupant comme si tout le monde était pareil, en effet, on ne se définit pas par l'âge, ça ne suffit pas, mais et en ne prenant pas en compte que être fragile ne veut pas dire ne pas être capable de penser, ne pas être capable de réagir, ne pas être capable, dans la mesure du possible, de faire ses propres choix.
De la même manière que dire les jeunes, souvent on dit aussi, voilà, ça ne veut rien dire non plus. Magali Assor, vous l'avez dit dès le départ, l'isolement, ça n'a pas été que dans les EHPAD. Il y a évidemment des personnes âgées qui vivent chez elles, seules parfois. Alors il faut pas non plus tout peindre en noir. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup aussi de solidarité, des entourages, de la famille quand c'était possible, des voisins aussi qui ont pu prendre soin les uns des autres. Vous, avec les petits frères des pauvres, dans quelle mesure vous avez pu continuer à accompagner justement des personnes, puisque c'est effectivement votre cœur de mission, lutter contre l'isolement et la solitude des personnes âgées?
Oui. Alors nous, ce qu'on a tout de suite fait, on s'est complètement réorganisé. On a renforcé nos lignes d'écoute. On a une ligne d'écoute qui s'appelle Solitude Écoute, où des personnes âgées peuvent appeler. On a eu une explosion des appels. On a demandé à tous nos bénévoles qui ne pouvaient plus faire de visite, donc de faire aussi des appels téléphoniques. Notre dispositif Paris en compagnie, qui normalement aide à la mobilité des personnes âgées, ont également passé plus de 6000 appels. On a un peu débordé de nos missions, c'est-à-dire que lorsqu'on a repéré des personnes qui, justement, à domicile, n'avaient plus de pouvaient plus aller chercher leurs médicaments, pouvaient plus faire leurs repas, donc on a été faire des courses, on a été faire des repas. On a des jeunes bénévoles pâtissiers qui ont cuisiné pour les personnes âgées. On a envoyé des dessins d'enfants. On a essayé de faire tout ce qui était possible pour maintenir le lien dans un contexte où tout le monde était confiné. Et sur les services, alors je voudrais juste revenir sur une petite chose, parce que moi je suis un petit peu en colère par rapport à ça, où on parle de cette impréparation comme si on découvrait tout en mars 2020. Effectivement, le manque de personnel, d'organisation et ça dans les EHPAD, ça fait quand même longtemps qu'on en parle, hein. 2017-2018, il y a eu quand même les grandes grèves dans les EHPAD. Absolument. Qui ont mis la lumière sur ces sujets. Là, il y a la grande concertation qui avait été lancée par Agnès Buzyn, le rapport de Monsieur Libault à domicile, puisque là on découvre rien, les personnes veulent vivre à domicile le plus longtemps possible. Donc pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait des services d'aide à domicile qui ont quand même été les derniers à être équipés en protection, en masque. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'aides à domicile qui ont fait valoir leur droit de retrait à juste titre parce qu'elles ne pouvaient pas se protéger. Et donc ça veut dire qui s'occupe des personnes qui sont à domicile. Donc cette impréparation, elle tombe pas, on la découvre pas. Je veux dire, dans le secteur, tout le monde a alerté depuis très très longtemps. Donc là, elle est mise en lumière et c'est une bonne chose.
Alors là, on est 3 mois environ après la fin du confinement. Justement, les personnes que vous voyez, que vous accompagnez avec votre association, comment vont-elles? Il y a évidemment plein de situations différentes, on imagine bien, on ne va pas généraliser. Mais est-ce que vous arrivez à évaluer, on va dire, les traces, les séquelles de cette période?
Oui. Pour les plus vulnérables, c'est-à-dire pour les personnes qui, par exemple, avec qui on n'a pas pu avoir de lien téléphonique parce qu'elles sont, soit parce qu'elles n'ont pas le téléphone dans leur chambre, soit parce qu'elles sont trop fatiguées ou trop affaiblies pour tenir un téléphone et mener une conversation, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est très difficile de rentrer en relation. De parler, hein, simplement parler. On a pu observer aussi, dans nos lignes d'écoute, des discours presque suicidaire. Il y a eu quand même beaucoup de glissements. Hein, vous savez, le syndrome de glissement, c'est quand on dit l'isolement, ça tue. C'est pas du lyrisme. Voilà, c'est ça. Donc le syndrome de glissement, c'est une dégradation de l'état de santé avec la perte de l'envie de vivre. Voilà. On s'est rendu compte aussi que les personnes qui n'avaient pas bougé, qui n'avaient pas marché, eh ben, ont perdu en muscles et donc font plus de chutes. Et on s'est rendu compte aussi que beaucoup ne veulent plus du tout sortir.
Alors, Serge Guérin, vous en avez parlé tous les deux. Voilà, le fait que qu'on consulte, qu'on écoute ou pas, la volonté, qu'on laisse le choix. Mais justement, cette question est très importante et en même temps très dérangeante. Qu'est-ce qui fait le plus de mal entre un virus et la perte totale de lien, l'isolement? C'est une question, mais qui peut décider ça? Qui peut répondre à cette question et au nom de quoi finalement?
Oui, vous avez parfaitement raison. À un moment donné, on n'est pas dans le théorique, on n'est pas dans le lyrisme pour reprendre la formule. On est dans du réel. Et puis, par exemple, il y a 800 000 personnes en France aujourd'hui qui sont touchées par des maladies neuro-évolutives. Donc, qui là aussi ont plus de dans le collectif, on avait Joël Jaouen, le président de France Alzheimer. On se disait mais comment des personnes qui sont très touchées peuvent continuer, enfin. Comment avec elle on arrive aussi à décider des choses. Et donc les choses sont évidemment pas du tout simples. Et c'est vrai, mais il y a quand même une réalité, c'est que ce virus, donc avec cette impréparation, et c'est vrai, il faut le redire, c'est aussi une impréparation plus globale. Hein, la première alerte, c'est le rapport Larocque de 1962. Ça fait donc 58 ans. Un certain nombre de choses sont dites et ne sont toujours pas faites. Hein, et le manque de personnel, le manque aussi de préparation de ce personnel. Le fait aussi, tout bêtement, c'est que les personnels, que ce soit en EHPAD ou à domicile, habitent souvent très loin. Quand c'est dans les grandes villes, elles n'ont pas nécessairement les moyens d'habiter dans ces grandes villes. Elles peuvent habiter très loin des personnes qu'elles accompagnent. Donc tout ça crée plein de difficultés. Et puis la question de la formation, la question de la préparation, donc tout ça entraîne plein de choses. Mais c'est vrai que ce lien, cette absence de lien, nous sommes des êtres sociaux. Quel que soit notre âge, on a besoin de l'autre. On a besoin de voir l'autre, on a besoin d'être vu par l'autre. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ne pas avoir pris cet élément en considération, et montre que disons qu'il y a une vision alors d'urgence et tout ce qu'on voudra, mais disons très technocratique, et on a oublié simplement que nous sommes encore une fois des êtres sociaux et que par exemple ne pas pouvoir sortir dans un parc, alors même qu'il y a un parc où donc il n'y avait pas de risque particulier. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont des ordres, qui sont des normes, avec aussi aussi une vision très 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 normative et très très centralisée. On paye aussi un choix d'organisation où c'est de là-haut que tout se décide, et en fonction, je dirais, de règles comptables, bien plus que de règles humaines.
Magali Assor, j'insiste quand même sur cette question de comment prendre en compte la volonté des personnes concernées. Aujourd'hui encore, dans la période où nous sommes, cette question, elle se pose aussi dans les liens entre générations. Voilà, quand on va voir ses grands-parents, par exemple, aujourd'hui, c'est compliqué de savoir si on leur fait plus de mal ou plus de bien en les prenant dans les bras, en étant près d'eux, en allant les voir, alors qu'on n'a pas été testé, qu'on ne sait pas si peut-être on est malade, on risque de les contaminer. C'est quand même une question extrêmement difficile à trancher.
Ah non, mais je dis pas du tout que ce soit simple, hein. Je dis simplement que les personnes âgées, peut-être d'abord, c'est pour celles qui ont peut-être le plus de difficultés ou de troubles, enfin de perte de capacité, c'est peut-être de prendre le temps de leur expliquer. Il y a quand même une question de temps, hein, de pédagogie, de manière de présenter les choses pour qu'ensuite elles soient en capacité d'émettre un choix ou d'émettre une orientation. Ou ensuite on peut aller voir ses proches sans se prendre dans les bras, c'est difficile. Mais voilà, nous on a les premières visites qu'on a faites, parfois c'était derrière des vitres, voilà, c'était pas forcément les meilleures conditions possibles, mais l'attention à l'autre, elle est nécessaire. Donc, prendre le temps d'expliquer et de laisser aux personnes la possibilité de formuler un choix, je ne suis pas sûre que ça a été fait. Aujourd'hui, la colère des familles qui judiciarise un petit peu tout ça par un certain nombre de procès, c'est aussi le défaut d'information et de communication. Je ne sais pas ce que... Enfin, voilà, on a peu d'informations de ce qui a été expliqué aux personnes et ce qu'elles en ont dit.
Magali Assor de l'association Les Petits Frères des Pauvres, Serge Guérin, sociologue. Nous vous retrouvons après le journal de 8h et la chronique de Libération pour poursuivre cette discussion, essayer aussi de se projeter avec ou sans reprise, deuxième vague, voir ce qui peut être fait de tout ce que l'on a appris ou en tout cas vu. Nous en parlons donc avec vous autour de 8h20.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
En 1978, pendant des travaux à Dawson, ville du Grand Nord canadien, on découvre des centaines de bobines de vieux films muets. Le réalisateur Bill Morrison raconte comment, dans cette ville intimement liée à la ruée vers l'or, on a trouvé un patrimoine cinématographique que l'on croyait à jamais disparu, dans un documentaire, Dawson City, le temps suspendu, ce mercredi, sur les écrans. Sauvons les bobines, dans la grande table d'été de Maëlys Bessery, avec les réalisateurs Bill Morrison et Claudio Paciencia, ce mardi à 12h45 sur France Culture et sur franceculture.fr. Vive la vie! Rite de fertilité, berceuse punk, enfant prodige, icône juvénile, chant du cygne, requiem ou marche funèbre en fanfare, de la naissance à l'au-delà, toutes les étapes de l'existence ont leur mélodie. Entre poésie musicale et stéréotypes de l'industrie du disque, exploration de la discothèque des âges de la vie, La fleur de l'âge, une série musicale de Natacha Triou et Véronique Lamandour, cette semaine à 15h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 8h.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Saurons-nous tirer les leçons du confinement concernant les personnes âgées suite de notre discussion ouverte ce matin à 7h40 avec vous, Magali Assor, responsable de la démarche de réflexion éthique au sein de l'association Les Petits Frères des Pauvres qui a publié début juin un rapport sur les effets du confinement sur nos aînés. Et vous, Serge Guérin, sociologue, professeur à l'INSEC à Paris, auteur de nombreux livres sur les seniors et le vieillissement, à l'initiative avec des médecins et des chercheurs des états généraux de la séniorisation. Avant 8h, nous avons dressé le constat, évoqué les questions difficiles sur l'isolement des personnes âgées, les difficultés rencontrées en EHPAD et à domicile, ce que cela révèle des problèmes structurels. Si l'on essaye de regarder devant, de voir ce qui peut être amélioré, la suite, on ne la connaît pas, bien sûr, mais je voudrais tout de même vous faire réagir à ces mots de Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, c'était dans Le Monde le 9 juillet. Il faudra peut-être qu'en cas de retour du virus en novembre, et je souhaite me tromper, dit-il, les anciens contribuent à ce qu'une vie sociétale puisse se poursuivre en France en se protégeant. Il dit, Jean-François Delfrécy, que c'est un choix politique, mais aussi un choix sociétal, que c'est une discussion qu'il faut avoir. Magali Assor, que pensez-vous de ces propos? Et effectivement, cette question doit-elle être débattue?
Alors nous, quand on a lu ça, ça nous a fait un peu bondir, parce que tout notre propos, toute notre énergie avec nos 13 000 bénévoles, c'est d'essayer de faire une société plus fraternelle, où chacun a sa place. Donc toute initiative, toute prise de parole qui irait fragmenter le corps social, ne peut, enfin, pour nous c'est incompatible. Et c'est justement ne pas tirer les enseignements de cette crise. On ne va pas refaire l'histoire, ce serait extrêmement malvenu. Par contre, on peut travailler à ce que l'histoire ne se répète pas. Monsieur Delfrécy fait partie du Conseil consultatif national d'éthique qui a rendu le 20 mai 2020 un avis extrêmement fourni sur les enjeux éthiques du déconfinement, avec comme orientation la responsabilité, la confiance, la solidarité, qui dit que le lien social est absolument nécessaire et qui dit en filigrane que un reconfinement par catégorie de la population ne fait pas vraiment sens. En réalité. Donc je ne comprends pas très bien quel est l'effort que M. Delfrécy demande aux personnes âgées. Ça voudrait dire qu'elles restent confinées chez elles pour que le reste de la population continue de vivre. C'est un peu étonnant de la part d'un membre du Conseil national d'éthique. Nous, ce qu'on dit, c'est que chacun doit être responsable pour que tout le monde puisse vivre le plus normalement possible. À cet égard, ça fait quand même un peu... Ça résonne un petit peu comme de l'agisme. Ça, l'agisme, c'est ce mot qui sonne un petit peu doux, mais qui derrière recouvre une réalité assez violente. C'est la discrimination des personnes par l'âge. C'est la manière de leur dire que elles sont une charge. Elles n'ont plus la place dans la société. Elles n'ont plus d'utilité sociale, économique, etc. De sorte que certaines se replient sur elles-mêmes et finissent par intégrer ce discours. C'est contraire à une société où chacun a sa place.
Alors on attend pour les prochains jours un nouvel avis du Conseil scientifique. On verra ce qu'il y a dedans. Serge Guérin, peut-être vous qui avez beaucoup travaillé sur l'intergénérationnel, justement sur cette question d'un confinement par âge évoqué en creux, là tout de même par Jean-François Delfrécy, qui dit en tout cas que c'est un choix de société, un choix politique qui doit être débattu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Déjà, il y a un terme intéressant et important, c'est la notion de débat. Mmh. C'est-à-dire que, en effet, que les choses ont été faites en grande partie dans l'urgence et un peu dans la panique, et donc sans débat. Mmh. Et que l'honneur d'une démocratie, et aussi pour que ça fonctionne, tout simplement, il faut que les gens soient convaincus de ce qu'ils font. Plutôt que les obliger, plutôt que être comme ça dans un système d'infantilisation, qu'on l'a vu aussi pour les jeunes, et de la même manière, des jeunes qui ne font pas attention, qui font la fête sur la plage, ainsi de suite. Il y a eu comme ça une tentation quand même au fur et à mesure, un petit peu d'attaquer les générations, quoi. Alors que finalement, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment collectivement on réfléchit et on agit de la meilleure des façons. Et les gens âgés, par exemple, qui se savent potentiellement plus fragiles, sont aussi les premiers à se dire je vais faire plus attention. Il n'y a pas besoin qu'on leur fasse la leçon, ils le savent. Donc c'est aussi comment on responsabilise tout le monde et on montre qu'on a tous intérêt à être, disons, plus attentifs. Et c'est donc autour d'une construction démocratique où on sera finalement tous et toutes bien plus forts, quoi. Tout simplement, c'est autour de ça. Je crois qu'il faut construire les choses. Il y a la question... des outils, hein, les masques, les tests, et ainsi de suite. On voit que c'est quand même pas encore tout à fait au point, que parfois il est extrêmement difficile de faire son test. Il y a des endroits où on ne trouve pas. Mmh. On est obligé de faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver un centre pour pouvoir faire les tests. Enfin, il y a tout ça qui doit être pris en compte. Mais surtout ne pas opposer les générations et plutôt construire quelque chose ensemble. Chacun a bien le sentiment, ou en tout cas la grande partie de la population a bien le sentiment que tout est parti lié, quoi. Qu'il s'agit en effet de trouver le meilleur équilibre possible entre la protection ou même l'autoprotection des personnes et puis une vie citoyenne, démocratique et économique qui puisse continuer.
Alors, Magali Assor, récemment, le Parlement a créé la création d'une cinquième branche autonomie de la sécurité sociale. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça doit changer?
Alors, nous, on l'appelait de nos voeux depuis longtemps. Ça va permettre de trouver des financements pour financer la perte d'autonomie. Après, ça reste, comment dire? C'est insuffisant dans le sens où, pour nous, c'est tout l'écosystème qu'il faut changer. Alors ça, c'est peut-être plus à long terme. Ce que je voulais dire juste avant, avant de parler du mois de novembre et de la possible du pic de l'épidémie qui pourrait revenir, moi, je voudrais parler de la période actuelle. Parce qu'il y a quand même des choses qu'on observe où on a l'impression que tout le monde est déconfiné, mais c'est pas vraiment le cas. Oui. Voilà, juste pour dire deux petites choses sur comment faire preuve un petit peu de discernement, de responsabilité aussi d'humanité, parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a des EHPAD qui se referment pour des risques, voilà, il y a des personnes qu'on pense...
Dans des zones où le virus circule.
Le virus circule et donc les personnes sont testées, elles sont testées négatives et le directeur d'EHPAD continue de fermer l'EHPAD pour le principe de précaution. Donc aussi cette manière d'appliquer extrêmement rigoureusement, enfin d'avoir une approche très restrictive du principe de précaution, ça c'est quand même ça tue les libertés, ça tue ce qui reste de vie. Le fait aussi que certains EHPAD nous ferment les portes en tant que bénévoles. Voilà, donc il y a quand même des zones d'inquiétude, même s'il y a beaucoup de choses très positives qui se mettent en place. On peut partir en vacances avec des personnes âgées, donc on respire un petit peu. Mais il y a quand même une forme d'inquiétude. Alors effectivement, les mesures qui sont en train d'être prises sur la création du cinquième risque, c'est une bonne chose. Mais pour nous, c'est insuffisant, ce que je vous disais, parce qu'il y a tout cet écosystème à changer. Il y a toute une réflexion à avoir sur le logement, sur l'adaptation des domiciles, si les gens veulent rester à domicile, la possibilité d'avoir des hébergements collectifs un peu différents des grands EHPAD tels qu'ils existent aujourd'hui. Et puis pour ceux qui iraient dans des hébergements collectifs, développer une culture qu'on appelle domiciliaire, c'est-à-dire que quand vous êtes dans cet hébergement collectif, vous vous sentez comme à la maison, c'est-à-dire que vous avez quand même, vous vous sentez chez vous, avec votre environnement, vous vous sentez habiter le lieu, vous avez un respect de votre intimité, de vos rythmes de vie, etc. Ensuite, nous, ce qu'on défend beaucoup, c'est la création de... Enfin, qu'il y ait une politique publique et portée en interministériel, puisque sinon, on va continuer à regarder les personnes âgées par leurs questions de santé, par leur perte d'autonomie, voilà, par petits bouts. Et ça ne va pas transformer, si vous voulez, la société. Donc, à un moment, effectivement, on peut agir sur quelques conséquences comme ça, effectivement, créer de meilleurs liens entre le sanitaire et le médico-social. Ça, c'est nécessaire. Mais si on veut, un moment, que les choses, elles changent en profondeur, il faut s'attaquer aux causes. Et je voudrais juste citer quand même Marianne Longchamp, qui est la présidente de la CNSA, et qui a dit une chose...
La CNSA, peut-être, rappelez-nous ce que c'est.
C'est la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie des Personnes Âgées, et qui a dit cette phrase à laquelle nous souscrivons complètement, c'est « Affirmer la citoyenneté de la personne jusqu'à la dernière seconde de sa vie est un projet politique ». Et je vous cite aussi une de nos bénévoles qui nous dit, nous, en tant que petits colibris, on fait ce qu'on peut, mais tant qu'il n'y a pas une politique transversale d'ambition, l'action des petits colibris, elle sera insuffisante.
Alors, y aura-t-il une politique transversale ambitieuse, Serge Guérin? Michel Billet, qui comme vous est sociologue, estimé hier, avant-hier, dans Le Monde, craignait en tout cas qu'une fois la crise passée, on oublie de nouveau les vieux. Êtes-vous aussi pessimiste que lui ou pensez-vous au contraire que la situation que nous vivons va contribuer à peut-être vraiment nous faire regarder toutes ces questions en face?
Oui, je crois que un des points positifs, on pourrait dire, de la catastrophe Covid que nous avons traversée, c'est la découverte par plein de gens de la séniorisation de la société, du vieillissement. Je me souviens de personnes, y compris de personnes politiques en vue, qui me demandaient mais de combien de personnes on parle? Quand on dit il y a 6 millions de personnes depuis 75 ans, ah oui, 6 millions, vous voyez, on n'est pas dans l'exotique, on n'est pas dans quelques personnes. Et demain, ça sera 12 millions de personnes. Donc il y a aussi quand même une prise de conscience à tous les niveaux de la réalité de cette transformation démographique extrêmement, extrêmement riche. Donc alors, cette prise de conscience, elle suffit pas. N'empêche que, elle était extrêmement importante. Alors, est-ce qu'ensuite, on reviendra je ne crois pas, parce que ces questions de financement, ces questions de penser autrement les choses, elles vont continuer de travailler la société. Mais c'est à nous aussi de continuer de poursuivre l'action. Je dirais que dans les grands enjeux, il y a celui de la parole, de l'écoute. C'était un peu le but des états généraux, hein. C'était comment on entend, comment on prend en compte la parole des gens âgés, la parole des aidants, la parole des bénévoles, la parole des élus locaux, enfin voilà, tous les gens qui agissent très très directement ou qui subissent parfois très très directement. C'est la question de l'éthique. La première, quand on a fait une sorte de consultation citoyenne, ce qui a monté en premier, c'est les gens demandaient une notion d'éthique. Quand il y a un lieu d'accueil qui accueille des gens âgés, que la question éthique, elle soit posée, et qu'elle soit posée avec des gens dont c'est le métier, mais aussi avec les personnes qui y vivent. C'est la question, par exemple, qui est revenue, c'est quand vous faites une solution, quand vous proposez quelque chose, que ce soit un nouveau système de transport, ou que ce soit une application, que sais-je encore, faites-la tester par les gens, et entre autres par les gens âgés. Peut-être qu'on verra qu'elle est utile ou qu'elle est pas utile, qu'elle est utilisable ou qu'elle est pas utilisable. Finalement, de ce point de vue-là, on ferait même plein d'économies, certainement. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont à, qui, qui sont à prendre en compte. Et ça veut bien dire d'avoir, je souscris complètement à ce qui a été dit, c'est-à-dire que d'avoir une vision globale des choses et pas faire morceau par morceau. C'est la question de la prévention aussi. C'est-à-dire que, et la prévention à tous les âges de la vie. Là aussi, il y a quelque chose en jeu. C'est de ne pas rester seulement sur des approches médicamenteuses. On voit bien que tout ce qui est médecine complémentaire et alternative sont des manières aussi de retrouver du pouvoir d'agir. En fin de compte, c'est comment, de ce point de vue-là, on réintroduit ou on réagit en termes de démocratie. La démocratie sanitaire, la démocratie en santé, c'est pas une démocratie en plus, c'est pas une démocratie de luxe. La question qui se pose, elle est la question de comment on décide collectivement face à une catastrophe collective, et on laisse et on écoute évidemment les scientifiques puisqu'ils ont des choses à nous dire extrêmement importantes, et on peut pas inventer ces choses-là quand on n'a pas la compétence, mais que à partir d'un discours scientifique et d'un ensemble de connaissances, on décide tous collectivement de ce qui est le mieux à faire en prenant nos risques, en faisant nos choix et en ne stigmatisant pas telle ou telle partie de la population.
Tout dernier mot rapidement, Magali Assar.
Les commerçants, les bailleurs, les artisans, les gardiens d'immeubles, les voisins, vous pouvez repérer des personnes en situation d'isolement. Signalez-les à votre mairie.
Merci beaucoup Magali Assar, responsable de la démarche de réflexion éthique pour l'association Les Petits Frères des Pauvres. On retrouve votre rapport sur le site de l'association, et puis on peut dire que la première préconisation de ce rapport, c'est changer de regard sur la vieillesse, tout simplement. Serge Guérin, merci à vous, sociologue, professeur à l'INSEC à Paris. Parmi vos ouvrages, Les Quinquados chez Calman Lévy en 2019, et donc ces états généraux de la séniorisation. Merci à vous de les 8h30.